de BB Club, disponible partout dès maintenant via Secret City Records. Une présentation de CISM, OPAC Productions et M pour Montréal.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Allô tout le monde, il est midi, vous êtes bien sur CISM 89.3, vous écoutez Bulle d'écoute, votre émission hebdomadaire. On se réunit tous les mardis de midi à 13h pour parler, discuter, débattre sur des sujets divers et variés, de la politique à la culture en passant par l'écologie. Aujourd'hui, je suis Tristan, votre animateur pour cette émission, très content d'être avec vous. Et cette semaine, comme les semaines précédentes, je suis accompagné de mes merveilleuses collègues Anne-Li, Maïna, Lauriane et Mélissa. Comment allez-vous?
Allô, ça va?
Alors ici, on se réunit encore une fois pour échanger, explorer, débattre, revisiter des sujets d'actualité, des thématiques qui résonnent en nous étudiants en journalisme à l'Université de Montréal, mais qui vous touchent aussi. Alors chaque semaine, tous les mardis, on s'empare du micro de CISM pour vous faire découvrir nos trouvailles et en discuter ensemble, embarquer dans notre bulle. Aujourd'hui, on vous parle avec Lauriane de la condamnation des 45 militants pour le régime de la République populaire par le régime de la République populaire de Chine de peine de prison ferme, car favorable à la démocratie à Hong Kong. Avec Annie, on vous parle de vol automobile au Canada où nous allons recevoir le directeur du service enquête chez Equité Association, Jonathan Lamontagne, pour aborder le plan d'action national pour freiner la tendance de vol. Avec Mana, elle va vous parler de la vitrine culturelle et humaine au quartier Côte des Neiges. Puis pour finir avec Mélissa et les réseaux sociaux dans le monde du travail. Nous allons aussi discuter de l'opération Nez Rouge avec Amélie Poirier qui lance sa 41e édition cette année. Et à 12h30, nous recevrons Mathieu du Festival M pour Montréal, l'événement qui débute demain, fête sa 18e édition ce week-end. Nous allons, pour finir, parler juste actuellement de la modification du calendrier du championnat du monde de Formule 1 à Montréal. Alors justement, pour parler du calendrier du championnat du monde de Formule 1, le groupe Octane et Formule 1 viennent d'annoncer hier la modification des dates du Grand Prix de Montréal au circuit Gilles Villeneuve. La course aura lieu à partir de 2026 dans la troisième ou quatrième fin de semaine du mois de mai. À la base, elle a lieu en juin, au mois de juin. Le groupe Octane, promoteur du Grand Prix de Formule 1 à Montréal, donc la raison serait, d'après le journal Le Soir Environnemental, cela permettrait de supprimer une traversée transatlantique en l'alliant au Grand Prix de Miami aux États-Unis. Le Grand Prix qui ramène quand même des milliers de touristes à Montréal lors de cet événement a été vivement critiqué depuis de nombreuses années. Plusieurs experts dénoncent le fait que l'apport économique environnemental n'est pas forcément très avantageux. La ministre du tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, se défend que le Grand Prix a permis 4,1 milliards de dollars de retombées économiques au Québec. On voit bien tous les ans que c'est sûr que les retombées économiques dans la ville de Montréal est conséquente. Ça se remplit de touristes à l'approche de l'événement. Le patron de la F1, Stefano Dominicali, a réagi en assurant que cette décision est dans le plan et dans une certaine logique pour que ce sport auto devienne carboneutre d'ici 2030. Ce changement permettra de faire concourir tous les acteurs de la F1 en Europe consécutivement et ensuite de venir en Amérique du Nord. Mais outre le domaine écologique, la grande question que les spécialistes se posent, c'est également sur la prostitution pendant l'événement. Le ministre du Tourisme du Québec a notamment mis en place un programme pour intitulé « Lueur du phare des affranchis » qui permet au personnel et bénévoles d'être sensibilisés sur ce sujet pendant l'événement. Alors oui, sur le tourisme, l'impact pourrait être positif, mais attention à ne pas oublier l'énorme impact carbone de cet événement. Le problème est bien là. Pour donner quelques chiffres, pour conclure, 20 bolides de F1 pour une semaine de course émettent 15 à 20 tonnes de CO2 pour le déplacement des écuries pour le GP à Montréal. C'est 2500 tonnes. Le transport de spectateurs quand ils se rendent au circuit Gilles Villeneuve représente quant à lui 1500 tonnes de CO2. Puis pour conclure, le bilan de la saison 2019 s'élevait, attention, à plus de 250 000 tonnes de CO2, gigantesque pour une course auto. Donc bien du courage pour arriver au carboneutre d'ici 2030.
Hey gang, fun fact, le Toyota Highlander est maintenant le véhicule le plus recherché par les voleurs au Canada. Il détrône le Honda CR-V qui dominait en tête de liste les deux années précédentes. Je me ferai peut-être pas voler mon Honda CR-V cette année. C'est ce que relève le dernier rapport d'Équité Association, l'organisation qui lutte contre le crime d'assurance et la fraude. En 2021 et 2023, le vol d'automobiles a explosé. Il y a eu une hausse de 57,9% au Québec et de 48,2% en Ontario. Et en mai 2024, la Sécurité publique du Canada a dévoilé un plan d'action national pour freiner cette tendance. Bien que le progrès ait été observé comme une baisse signalée de cette année, les experts insistent tout de même sur l'urgence de moderniser les normes de sécurité de ces véhicules, en particulier le règlement ULC 338 pour lutter contre les nouvelles techniques de vol. Brian Gast, d'Équité Association, met en lumière une approche prometteuse, une combinaison de mesures préventives comme des dispositions anti-vol, des systèmes d'antidémarrage et des mécanismes de repérage. Par contre, une action concernée entre fabricants, gouvernements et citoyens reste essentielle pour enrayer cette crise. Tout le monde doit faire partie de cette méthode anti-vol parce que sinon, ça va continuer. Je me suis d'ailleurs entretenue avec le directeur de service d'enquête chez Équité Association, Jonathan Lamontagne, pour aborder justement ce plan d'action national qui vise à freiner cette tendance de vol. On l'écoute. Pourquoi les véhicules récents et dotés de démarrage sans clé sont-ils particulièrement ciblés par les voleurs?
Premièrement, parce qu'ils sont récents, qu'ils ont une bonne valeur de revente et que la technologie permet aux voleurs de réussir à les subtiliser assez facilement.
OK, donc comment le plan d'action national peut lutter contre ce système de vol d'automobiles qui a une grosse tendance.
Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu une légère diminution du nombre de vols en 2024. Par contre, il ne faut pas lâcher la pression. Puis, le plan d'action était basé sur trois axes, c'est-à-dire l'échange d'informations entre les intervenants, les interventions policières répressives ou d'enquête, ainsi que les demandes de modification de lois et règlements. Nous demandons que les nouvelles normes ULC 338 soient mises en vigueur pour tous les fabricants automobiles afin de rendre plus difficile le vol automobile.
Pour la prochaine année, est-ce qu'il y a un estimé?
Écoutez, au mois de juillet, on a publié les résultats de la première moitié de l'année 2024. Et pour le Québec, on avait une baisse de 36% et pour le Canada de 17%. Mais comme je vous disais, c'est fun que ça baisse, mais il faut comprendre que la prévention du vol va être la clé du succès si on veut ramener ça à des niveaux pré-pandémiques.
OK, d'accord. Donc, c'est quoi les dispositifs anti-vol les plus efficaces actuellement disponibles pour les Canadiens?
Nous, ce qu'on recommande, c'est toujours une approche par couche, donc une approche qui est plus... ne pas laisser son véhicule en marche, prime abord, le stationner dans un endroit éclairé, chose de base comme ça. Suite à ça, il y a des moyens physiques. Bord de volant, verrou de port OBD, verrou de pédale, des choses qui sont plus électroniques, antidémarreur, coupe-circuit, immobilisateur de véhicule lorsque requis, identification double facteur lors du démarrage du véhicule. Et il y a toujours les systèmes d'alarme et par la suite des systèmes de repérage pour récupérer les véhicules qui pourraient être volés quand même.
Ben ça diminue les vols, mais ça ne les empêche pas?
C'est très difficile d'enrayer complètement le vol puisque c'est toujours une lutte technologique entre les criminels et les manufacturiers et les intervenants des services de police. Donc, c'est pour ça que la prévention puis l'installation de mesures supplémentaires par les manufacturiers va faire en sorte que ça va réduire considérablement le vol. Je peux vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Marketplace sur CBC où le même véhicule vendu en Grande-Bretagne versus celui vendu au Canada, il y a des dispositifs de sécurité supérieurs sur celui en Grande-Bretagne parce que les lois sont plus sévères.
On remercie infiniment Jonathan Lamontagne d'avoir répondu à nos questions. Gang, on fait attention pour ne pas se faire voler nos voitures cette année.
Troisième manchette, à Hong Kong, 45 militants pro-démocratiques ont reçu une peine de prison ferme, des procédures qui se sont prolongées pendant plus de 3 ans et demi, des peines de 10 ans pour certains. Parmi ces militants, on a des juristes, ex-leaders, ex-leader de parti, étudiant et activiste, tous accusés de complot, certains pour avoir fait signer de simples pétitions pro-démocratie. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé, planifié ou participé à ce qu'on appelle les élections primaires du Conseil législatif en 2020. Ils ont été jugés coupables de violer la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Le verdict? Complot en vue de subvertir l'État. Une position de la part des juges qui s'aligne avec les intentions de la Chine, soit asseoir son autorité complète sur la région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Un énorme recul pour la liberté politique de Hong Kong qui fait craindre le pire à Taïwan, dont la Chine revendique également une souveraineté sur le territoire. J'ai eu la chance de discuter ce matin avec Jean-François Dupré, professeur de sciences politiques à l'Université TELUC et auteur du livre Hong Kong conquise. Voici sa réaction à la nouvelle de ce matin.
Pour ce qui est de la question, savoir si c'était prévisible, je pense que c'est il n'y a aucune surprise là avec le jugement qui a été rendu hier. Comme je vous disais, ça vient plus confirmer là, ce qu'on savait déjà, que le gouvernement de Hong Kong est vraiment à la solde de Pékin.
Pour M. Dupré, c'est surtout une démonstration de force, une preuve que Pékin ne compte plus se brimer, qu'il a perdu une pudeur autoritaire sur la scène internationale.
On a la preuve de ce que le gouvernement peut accomplir avec cette nouvelle loi sur la sécurité nationale. C'est vraiment une des premières fois là, qu'on voit la loi puis le système judiciaire qui a été un peu réformé à l'œuvre. Donc c'est une consolidation de dynamique là, qui était déjà en cours. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui vient changer la donne énormément.
Une confiance qu'on peut imaginer être nourrie par les démonstrations de force de l'Alliance sino-russe cette année, entre autres. Mais quel recours va avoir la population de Hong Kong pour faire face à ces répressions? Pour lui, le soutien international reste démuni et Taïwan, prochaine victime probable, est sur ses gardes, surtout depuis l'élection de Trump qui reste très imprévisible. Biden avait affirmé soutenir l'île contre une potentielle invasion de la Chine. Militairement, il avait dit qu'il allait s'interposer, mais aujourd'hui, ce soutien reste incertain et limité avec l'arrivée de Trump. Pour Jean-François Dupré, ce retournement de situation ne devrait cependant pas changer grand-chose.
Je mettrais pas vraiment énormément de confiance dans l'administration Trump pour vraiment aider Taïwan, aider Hong Kong. Ça va vraiment dépendre des gens là, qui sont dans son entourage. Je crois pas que l'administration Biden était très très différente de l'administration Trump dans son positionnement vis-à-vis de la Chine. Donc je crois pas non plus que ça va changer énormément là.
Dans tous les cas, un coup très dur pour la population hongkongaise, confrontée à tous les coups à une répression immédiate. On peut s'attendre à d'autres moyens de répression de la part de Pékin dans les prochains mois. À suivre.
Ça bouge du côté de la promenade de Jean-Briand. Depuis 2021, la Société de développement commercial, la SDC Côte des Neiges, célèbre les visages derrière les commerces et les entreprises locales à travers le projet Portrait de commerçantes et commerçants professionnels et professionnels de Côte des Neiges, qui met à l'honneur, pour cette nouvelle édition, 12 propriétaires et dirigeantes de 9 entreprises. Si vous êtes déjà baladé un peu sur la promenade Jean-Briand, vous avez déjà sûrement dû apercevoir les différentes expositions extérieures qui prennent forme en fait de grandes pancartes qui sont également accompagnées de QR codes qui renvoient à des capsules audio numériques. Dans un quartier aussi dynamique et diversifié que celui-là, les petits commerces, c'est bien plus que des lieux d'achat. Ils jouent un rôle essentiel, c'est à la fois des moteurs économiques, mais ce sont aussi des lieux de rencontre qui ont tous un point en commun. J'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec M. Kevin Dupont, chargé des communications SDC, Société de développement commercial de Côte des Neiges, pour comprendre l'idée derrière le projet. On l'écoute.
L'idée, c'est de mettre de l'avant les propriétaires et les dirigeants d'entreprises et de créer un pont avec les citoyens et citoyennes en sortant métaphoriquement l'entrepreneur à l'extérieur de son local ou son commerce. Mais ils ont tous décidé de s'établir à Côte des Neiges vraiment pour leur amour pour le quartier. Et ça, c'est quelque chose, c'est comme un fil conducteur que moi, personnellement, en allant, par exemple, mener des entrevues ou tout simplement en participant au portrait, en discutant avec eux, c'est ce qui ressort et c'est ce qui nous marque.
des espaces humains où se croisent histoire, rêve et ambition. D'ailleurs, avoir son portrait affiché sur une rue piétonne aussi utilisée, ça suscite forcément des réactions. J'ai pu en discuter avec Monsieur Geoffrey Gonzalez, copropriétaire de la section Barbershop, qui nous a partagé son ressenti.
Quand je l'ai vu, je savais pas quoi dire en fait. J'étais bouche bée, j'étais vraiment surpris de comment ça s'est... De même voir ma face sur une affiche, ou de voir la face de mon partenaire aussi sur une affiche. Mm-hmm. Ça nous a vraiment rendu chaud au cœur. Vu que j'ai grandi dans le quartier, puis je suis né dans le quartier, c'est une opportunité que je pouvais pas dire non.
Donc une petite pensée à tous les commerçants de Côte-des-Neiges. Venez soutenir vos commerces en tant que public. N'oubliez pas, soyez gentils avec eux, on est tous humains, on a tous des vies différentes. Apprenez à les connaître à travers l'exposition qui est disponible du 4 novembre 2024 au 4 mai 2025 et faites un petit tour dans leur commerce.
Notre premier ministre, Justin Trudeau, a surpris tout le monde hier en changeant son rôle de politicien pour celui de YouTuber. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais il a publié une première capsule vidéo sur l'immigration. On en écoute un extrait à l'instant.
L'immigration, faut qu'on en parle. Dans les deux dernières années, notre population a augmenté très vite. Genre, vite comme un baby boom. Et de plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi.
Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais YouTube et les réseaux sociaux semblent devenir de plus en plus des outils utiles pour les politiciens et le monde du travail. Si on regarde récemment, il y a eu aussi toute une vague de changements sur la plateforme X, puisque son fondateur, Elon Musk, a grandement soutenu la campagne présidentielle de Donald Trump, ce qui a incité les gens à se tourner vers la plateforme Blue Sky. La plateforme a atteint 1 million d'utilisateurs 24 heures après les élections américaines, parce qu'il ne voulait plus encourager X, qui était autrefois Twitter. Donc, qu'on le veuille ou non, ces plateformes numériques sont devenues vraiment importantes et au cœur de nos vies collectives. On utilise les réseaux sociaux personnellement, mais comment est-ce qu'on utilise ces réseaux sociaux aussi dans le monde du travail? J'en ai parlé avec le président du réseau Optima Conseil, qui est une compagnie RH, avec Jean-Paul Léonard, qui est dans ce domaine depuis plus de 35 ans, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir plus tôt ce matin. Puis en lui parlant, je lui ai demandé si les réseaux sociaux étaient favorables dans le monde du travail, surtout que chez les jeunes de 20 à 30 ans, il y a de plus en plus d'anxiété face au coût de la vie et aux pressions que l'on retrouve dans le monde du travail. Puis, selon un rapport de Dialogue, qui est la plus grande plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, c'est un problème que l'on retrouve de plus en plus. Donc, on écoute ce qu'il avait à nous dire.
C'est un outil parmi tant d'autres. Oui, ça sert au niveau de la recherche, de poste, de regarder les opportunités qui peuvent être offertes pour ce que les personnes recherchent. Mais c'est large comme information. Donc, il faut réellement être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on veut et puis de faire de bonnes recherches dans ce sens-là. Mais c'est, mm-hmm. oui, effectivement, un outil qui peut être fort utile pour ça.
Il disait aussi que ça peut faciliter les démarches d'emploi parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui continue d'utiliser les CV papier ou les méthodes d'embauche traditionnelles d'autrefois. Donc, on l'écoute aussi là-dessus.
Je pense qu'aujourd'hui, la technologie a sa place si elle est bien utilisée. Si les gens vont porter leur CV en main, ils seront peut-être pas reçus mm-hmm. au niveau de l'agenda de l'entreprise, des gestionnaires qui vont les rencontrer. C'est un outil d'introduction. S'il est bien utilisé, oui, ça peut être efficace et puis ça peut aider au niveau de la démarche de recherche d'emploi.
Donc, c'est sûr que ça peut aider des plateformes comme LinkedIn et tout. Puis en terminant, je lui ai demandé aussi s'il y avait d'autres défis à venir dans le milieu surtout des RH, des ressources humaines. Puis il me dit personnellement que l'intelligence artificielle en était un également. Donc, on l'écoute aussi dans ce dernier extrait.
Ça a effectivement un impact sur les ressources humaines, tant au niveau de l'utilisation qu'au niveau... du choix des personnes puis du poste qu'ils vont occuper en faire l'utilisation.
Mm-hmm.
C'est bien utilisé, oui, ça peut être bien, comme ça peut être quelque chose qui va effectivement causer plus de problématiques que d'autres choses.
Donc, je sais pas si vous, vous êtes sur LinkedIn ou si vous êtes d'accord avec ça, mais tu sais, on est vraiment dans une période de changement dans ce qui est surtout le monde du travail.
Ouais.
Mais on remercie encore Monsieur Jean-Paul Léonard pour avoir accepté d'être avec nous ce matin.
Merci beaucoup, Mélissa. Merci à vous quatre pour nos manchettes du début d'émission. On se retrouve dans quelques minutes après la pause musicale. On écoute les louanges Chaperon. On va parler notamment de l'opération Nez Rouge avec Anne-Lie et Maïna, où Amélie Poirier sera sur nos ondes en direct. À tout de suite.
Le téléphone sonne trop tôt ce matin, le mal était déjà fait accompli. Encore endormi, tu cours chercher les clés de la voiture. 300 km te séparent de son lit. T'as jamais, jamais, t'as jamais voulu faire de mal à personne, personne. Mais laisse, ça change aujourd'hui. Tu veux la venger, tu dis. Le bat de baise au côté de la porte. Quand j'ai su, j'ai voulu le prendre moi aussi. J'ai couru pour aller le chercher avant ton arrivée. Ces os que tu veux casser pourront bien attendre. Sa queue qu'on lui coupe son pain. L'homme est un loup pour ses sœurs. Et tu voudrais jouer au chasseur. Car les cochons n'agiront pas pour le petit chaperon. Preuve de paille contre défense béton. Rien pour aider ta blonde. Reste à répondre à la question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laissez-le tomber. Laissez-le.
De retour sur les ondes de CSM La Marge, laisse la parole tout de suite à Anne-Lie Maïna pour l'opération Nez Rouge.
Et oui, le service de raccompagnement Nez Rouge est de retour du 29 novembre au 31 décembre prochain. Cette année, c'est déjà la 41e édition au Canada. On est à la recherche des bénévoles. Alors, gang, on va s'inscrire dès maintenant au www.opérationnezrouge.com sans accent. Cet organisme à but non lucratif est subventionné par la SAC et leurs dons. Les dons qu'ils reçoivent servent à des organismes de la région auprès des jeunes et des sportifs. C'est possible justement de faire des dons suite au raccompagnement ou via le site en ligne. Au Canada, il y a 77 régions au complet qui offrent le service. Et au Québec, on fait partie d'une cinquantaine de ces régions. Donc, c'est énorme. Pour ceux qui veulent s'inscrire comme bénévoles, il y a un concours. Gang, j'ai dit concours. Let's go. On va s'inscrire jusqu'au 29 novembre. Donc, plus vite on s'inscrit, On a accès au concours. C'est un tirage au sort à gagner. Il y a quelques lots qui sont offerts, dont un coupon de 3 000 $, des places de hockey, des cartes cadeaux Visa, etc. On s'inscrit.
Inscrivez-vous, la gang.
Let's go, let's go. Cet organisme encourage la prise de décisions responsables à pas conduire sa voiture en état d'ébriété, principalement pendant les fêtes. Ce service est entièrement gratuit pour les utilisateurs, mais les pourboires sont toujours les bienvenus.
D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le concept, comment ça fonctionne?
Oui, ben premièrement, maintenant que l'application mobile, elle permet vraiment l'accès facile au raccompagnement. On peut trouver le numéro de téléphone de Nez Rouge de la région. Tu donnes ton adresse où tu te trouves, aussi possible via l'application. Mm-hmm. Chaque service demandé, pour chaque service, il y a une équipe de 3 bénévoles qui arrivent sur place avec une voiture. Et en plus, ils ramènent la vôtre à votre domicile. Donc, ta voiture n'est pas prise sur Saint-Denis un samedi matin.
Elle se fait pas voler si c'est une...
Ou t'as pas une Toyota ou t'as pas de ticket. Il y a 2 personnes qui s'assoient avec vous à l'avant de la voiture pour les fêtards. Mm-hmm. Et il y a le 3e bénévole qui ramène la voiture de Nez Rouge. Avec les différents outils de transport dans la région, comment le service se démarque-t-il?
On reçoit justement aujourd'hui au téléphone Mme Amélie Poirier, coordonnatrice dans l'opération de Nez Rouge. Bonjour Mme Poirier, merci d'être avec nous ce midi.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. On voulait savoir pourquoi les dons, pourquoi avoir choisi les jeunes sportifs pour offrir des dons qui sont donnés à Nez Rouge?
Oui, bien en fait, l'idée est venue en 1984, là, quand M. Jean-Marie de Coninck cherchait justement une idée pour financer les athlètes de l'Université Laval à ce moment-là, en 84. Puis, lorsqu'il a été mis au courant des statistiques là, relevant justement les causes des décès reliés à l'alcool au volant, il y a eu cette idée de combiner une campagne de sensibilisation pour les conduites aux sociétés affaiblies, ainsi que redonner justement les dons, l'argent pour la jeunesse, pour le sport, pour venir contribuer là, à revitaliser les milieux sportifs, les milieux étudiants. Donc, c'est pour ça un peu là, que Nez Rouge, l'opération Nez Rouge combine les deux.
Sur un point de vue un petit peu plus sociétal, vous avez créé ce service pour une raison spécifique, mais est-ce que, selon vous, ça démontre l'existence de lacunes, en tout cas de défaillances dans nos autres méthodes de transport, que ce soit au niveau de la confiance, de la sécurité, etc.?
Bien, c'est sûr qu'en 1984, là, c'était très, très réel, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport en commun pour rentrer en fin de soirée, tard le soir. Au Québec aussi, on a des villes assez étalées, donc c'est difficile de faire des transports à pied, quoi que ce soit, en fin de soirée. Donc, naturellement, les gens étaient portés à reprendre leur véhicule. Donc, c'est pour ça aussi que, spécifiquement au Québec, ça s'applique vraiment bien cette opération, puisqu'on peut faire des transports de plus longue durée à bas prix en rapportant les gens de manière sécuritaire à la maison là, avec leur véhicule. Mais c'est sûr que oui, ça peut justement peut-être démontrer dans certaines régions un manque d'autres options. Ouais, voilà.
Et est-ce que justement, avec les années, vous avez observé un changement dans dans la clientèle?
C'est sûr que oui, évidemment que là, bon, les années super fortes avec l'opération Nez Rouge, on parle beaucoup de juste avant les années 2000, début 2000, puis là, on voit que la clientèle était vieillissante, donc on essaie maintenant de rejoindre les jeunes, de les conscientiser aussi à ne pas prendre l'alcool au volant, d'utiliser l'opération Nez Rouge pour pouvoir quand même là transporter leur véhicule en début de soirée, puis revenir à la maison avec leur véhicule également. Mais c'est ça reste que la clientèle, on touche plus une trentaine, quarantaine là, dans les âges, mais on essaie aussi d'aller rejoindre les gens plus dans la vingtaine.
OK, mais merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Est-ce que vous auriez une petite anecdote que vous aimeriez nous conter ou un souvenir de votre expérience?
Mais écoutez, il y en a plusieurs des anecdotes. Hein. Nous, on a une équipe, dans les dernières années, ça leur est arrivé d'arriver à Montréal, d'aller chercher un véhicule, puis le client de se rendre compte que le pare-brise arrière avait été défoncé durant la soirée. Donc là, on se retrouve à avoir plus de vitre arrière, mais là, c'est impossible de faire un raccompagnement là, avec le vent comme ça, la neige, l'hiver en décembre. Donc l'équipe de bénévoles a dû devenir un peu débrouillard, puis ils ont... Vous allez acheter des sacs de poubelle, ils ont tapé la vitre arrière, donc ils ont créé une espèce de vitre arrière pour pouvoir effectuer leur accompagnement. Puis au final, ils ont réussi à accompagner les clients en sécurité. Puis bon, c'est eux-mêmes qui ont géré par rapport le bruit de la voiture. Mais c'est un exemple, il y a tellement des millions d'anecdotes avec Opération Nez Rouge, vraiment, ça peut être une soirée cocasse aussi. entre amis, c'est le fun, ça crée des souvenirs pour une équipe aussi plus corporative. C'est plutôt un bon moyen aussi de créer des liens.
Vous devrez écrire un podcast ou écrire un livre avec ouais. toutes vos anecdotes.
Ça serait une très, très bonne idée. Ouais.
Mais un grand merci, Mme Poirier, d'avoir été avec nous ce midi. On vous souhaite tout bon pour la suite.
Merci beaucoup et au plaisir de vous voir sur les routes.
Merci beaucoup.
En parlant d'expérience, on a eu un entretien avec Hélène qui a déjà été bénévole pour Nez Rouge en 2019. On lui a demandé de nous parler un peu de son expérience.
Comme bénévole, c'est sûr, là, c'est une très belle expérience. Très touchante, je dirais, utile, vraiment utile.
Mais d'ailleurs, pourquoi on utiliserait ce service et pas un autre? Qu'est-ce qui le rend si spécial?
Ben moi, j'ai déjà utilisé ce service-là, puis... Honnêtement, en tant que jeune, c'est parce que c'est gratuit. Mm-hmm. On fait confiance quand même. Tu sais, quand t'es sous, tu fais un peu confiance
à tout le monde.
À tout le monde. Puis d'autant plus que ça coûte cher une soirée, ben, on se dit pourquoi pas. Il y a des bénévoles qui sont contents d'être là puis de le faire pour nous. Tu sais,
moi, je suis d'accord, mais en même temps, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur de me dire j'aimerais bien l'utiliser, c'est gratuit. Genre, tu sais, comme je sais que ça pourrait être bénéfique des fois quand je vois mon état en sortant de soirée, mais je me dis, tu sais, comme il y aura sûrement des personnes qui en auront beaucoup plus besoin que moi, puis que je vais prendre la place de quelqu'un d'autre.
Oui, j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent comme ça. Puis, c'est un peu dommage parce que c'est une belle initiative, là, puis ça sauverait tellement de. Ben, de cas où est-ce que les gens en ont besoin, là. Ben,
exact.
Moi,
ben, exact. Tu sais, sont là pour ça. Sont là pour le monde qui se disent, je suis trop sous pour conduire. Puis en plus, l'avantage d'un service Uber, c'est que t'es pas obligé de payer un service Uber pour te rendre à ton événement.
Ouais.
Tu te rends avec ta voiture, mais on peut la ramener pour toi. Fait que, on a demandé à Hélène, justement, c'est quoi la sécurité face à ça? Est-ce que le monde leur ferait confiance?
Ils ont leur permis de conduire, on a l'immatriculation de leur voiture, et puis habituellement, c'est des jeunes couples. Hein? Mon expérience en 2019, au 31 décembre, mais c'est surtout des jeunes, j'étais étonnée de ça. On a un permis de la centrale, on est identifié à la centrale, ils peuvent toujours appeler à la centrale. Ils vont voir nos noms d'avance de ceux qui s'en viennent chez eux.
Mais en tout cas, un grand merci à Hélène d'avoir pu répondre à nos questions.
Fun fact, le concept a même été repris à l'international suite à cela. Il y en a en Belgique, en France, au Portugal, en Suisse. Ouais.
Tu vois,
est-ce que vous saviez?
Non,
j'en ai pas non plus.
Mais ça s'étend pas sur un mois, par contre. Exemple, en France, je sais que c'est juste la nuit du 31 décembre pendant une certaine période. C'est tout. Pour connaître toutes les régions et pour vous inscrire comme bénévole, on rappelle, en un clic, c'est au www.opérationnezrouges.com.
Merci Annie et Maïna et merci encore à Hélène d'avoir été avec nous en direct. On fait une courte pause, restez avec nous. À notre retour, on reçoit Mathieu Aubre pour parler de la programmation du festival M pour Montréal.
Quicker than I could think. Lift me up, don't want sink. Pull me up, I need a drink.
What the fuck do I do with sabotage? It's all I know.
De retour sur les ondes de CISM La Marge, on parle tout de suite du festival M pour Montréal avec Mathieu.
Yes, salut.
Le festival de musique Marathon commence ce mercredi, donc à partir de demain à 18h, c'est 30 concerts sur 4 jours qui vous sont offerts dans plus de 15 salles de spectacle à Montréal.
Oui, c'est vraiment une opportunité de découvrir le paysage musical québécois et canadien émergent. Les prix sont assez variés aussi, puis j'ai même vu qu'il y a des spectacles qui sont gratuits aussi.
On adore. Puis si vous pouvez pas vous libérer pour les spectacles d'ouverture, pas de panique, la programmation s'étend jusqu'au 22 novembre. Donc vendredi, il y a également 9 conférences, 12 kiosques, 2 tête-à-tête et un atelier qui vous sera offert gratuitement au grand public. Il faut simplement réserver sa place en avance sur le site web du festival. Allez faire un tour.
Exactement. Puis nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Mathieu Aubre, le programmateur de M pour Montréal et animateur radio, qui est avec nous pour nous expliquer un peu le concept puis à quoi s'attendre dans les prochains jours. Mathieu, merci tellement d'être avec nous.
Ça me fait plaisir. J'ai déjà spoilé mes salutations.
Oui, exact. Mais rapidement, ça fait combien de temps que tu fais la programmation?
Moi, c'est ma 4e édition cette année. J'étais rentré à la base aux médias sociaux, ce qui est pas mal la chose que je déteste le plus dans la vie. Mais j'ai rapidement donc transitionné vers la prog musicale.
Là. OK. Donc, le nom décrit bien l'expérience. 4 maps comme Instagram, M for Montreal. Mais c'est quoi exactement?
M pour Montréal, mais dans le fond, c'est ce qu'on appelle un festival conférence, c'est-à-dire que c'est pas que des spectacles grand public. Le volet principal de M pour Montréal, c'est surtout le volet export, c'est-à-dire qu'on va présenter 28 artistes du Québec puis du Canada, autant français qu'en anglais, à des professionnels qui viennent de 18 pays différents qu'on fait venir à Montréal pendant une semaine pour voir un peu ce qui se produit en musique ici, dans le but de favoriser de leur trouver des agents de spectacle en Europe, leur trouver une maison de disques aux États-Unis, leur trouver des occasions de jouer sur des séries Netflix et autres. Fait que ça, c'est pas mal le volet principal qui s'adresse surtout aux professionnels. Puis après ça, il y a effectivement le marathon qui est là, le festival plus grand public.
Puis on a vu sur le compte Instagram, vous avez publié 4 maps.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Oui, comme tu le mentionnais, on a des spectacles dans 15 salles à Montréal, ce qui fait que d'un fois, c'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qui est proche, surtout quand on vend des passes festivals qui permettent d'accéder à plus d'un spectacle par soir. Fait que d'un fois, c'est le fun de pouvoir savoir que tu as 3 salles de spectacle qui sont à 5 minutes de marche, puis que tu peux toutes les faire parce que ça marche.
OK, c'est pas un parcours.
Il y a un parcours si tu veux faire le parcours, mais il est pas obligatoire, bien évidemment.
C'est parce que j'ai vu que certains spectacles aussi sont aussi en même temps.
Ouais,
donc, il va falloir faire des choix.
Exactement, des choix parfois déchirants. Il y a des soirs, par exemple, mercredi, il y a rien qui est en compétition dans toute la soirée. Donc, vous pouvez voir de la musique de 18 à 3 heures du matin sans jamais avoir besoin de se casser la tête, mais les autres soirs, par exemple, le vendredi puis le samedi, je pense que des fois, on a 10 salles en même temps. Fait que c'est, wow. C'est là qu'il faut peut-être un peu plus choisir ce qu'on veut faire. Ouais.
Donc, c'est quand même international aussi comme festival.
Oui, on a, ben, c'est ça, outre les pros dont je vous parlais, on a aussi quelques artistes internationaux cette année. De la Belgique, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France et de la République tchèque. Okay. Donc, on se fait quand même un petit voyage à l'étranger.
Puis, je me suis demandé, j'ai vu les prix un peu sur votre site web. Ouais. T'as la passe estivale qui est 150$. Sinon, le prix de chaque festival est très varié.
C'est assez varié, ouais. Exact.
Comment vous avez fait pour choisir les déterminer?
Généralement, pour les ce que je vais appeler les plus petits spectacles, c'est-à-dire des jauges comme l'ESCO, là, qui est des brumes, qui sont souvent des artistes qui débutent un peu plus, ou des artistes internationaux, on veut garder les prix abordables. Donc, c'est généralement autour de 15$. Ce qui est un petit peu en dessous de la nouvelle norme pour les festivals en ville. Donc, on essaie de garder ça, comme je disais, abordable. Puis après ça, quelques spectacles gratuits quand même qui sont souvent présentés avec des partenaires internationaux canadiens et également les afters auxquels on vous invite à chaque soir au Quai des Brumes qui, eux, sont gratuits. Donc, petit volet électro pour bien finir sa soirée à coup de bisous qui est le shot maison du Quai des Brumes. Ouais.
Okay. Si j'étais une artiste qui voulait participer, est-ce que tu aurais un conseil à donner?
Ouais, oui, pour le volet export, on a vraiment des normes assez claires puis assez décisives parce que on veut pas non plus montrer n'importe qui à ces professionnels-là qui prennent du temps pour venir. Par exemple, le programmateur de Coachella aux États-Unis, on essaie de lui garder une petite qualité, ce qui veut pas dire que si vous commencez en tant qu'artiste, vous l'avez pas, mais on essaye de prendre quand même des gens avec un certain stade de développement. Par contre, pour ce qui est du festival, on s'adresse justement à des artistes qui débutent un peu plus. À chaque année, de février à mai à peu près, on a un appel à candidature justement pour que les artistes envoient leur dossier. Puis après ça, si je peux donner un truc peut-être pour ceux qui nous écouteraient, parce que c'était ça ta question à base, avant que je m'égare. Le truc que je vous donnerais, c'est de toujours avoir du contenu vidéo qui est intéressant. C'est-à-dire que oui, des clips, c'est cool, mais d'avoir une captation, par exemple, d'une chanson que vous faites live sur scène devant public ou un enregistrement, par exemple, dans votre studio pendant que vous répétez, c'est toujours intéressant pour des programmateurs. Puis je vous dis pas juste pour M, là, pour des festivals en général, parce que ça nous donne un meilleur aperçu de ce à quoi ressemble le spectacle qu'on va acheter à la fin du compte. Donc, je pense que c'est le principal conseil que je pourrais donner.
Et pour les artistes qui vont du grand public, qui viennent juste voir par curiosité, il y a des soirées de réseautage aussi. Quel conseil tu leur donnes d'aller de l'avant, d'avoir des choses prêtes?
Ouais, il y a ce qu'on appelle le Artist Lab, qui est gratuit, qui s'adresse vraiment aux artistes, pas nécessairement à l'industrie, qui ça permet d'avoir des conférences, des ateliers d'apprentissage, des sessions de réseautage, qui ça est accessible encore une fois gratuitement. Vous pouvez aller sur le site de M pour trouver plus d'infos. Il faut réserver pas à l'avance, mais les activités sont toutes gratuites, donc l'Artist Lab. Et sinon, oui, on a des séances de réseautage, des 5 à 7, tout ça. Le meilleur truc que je pourrais donner à des artistes, c'est d'arriver avec des petites cartes avec un bon code QR qui va donner accès directement à
sa page web.
Okay.
Page web, mais surtout si ça peut donner un lien vers un dossier avec, par exemple, le dossier de presse, quelques faits saillants de la discographie, donc 4 ou 5 chansons et tout ça. C'est le fun à avoir sous la main quand t'es un agent qui veut aller comprendre le projet rapidement.
C'est ça.
Puis les artistes que vous avez en ce moment, c'est des artistes que vous avez appris à connaître dans les événements passés de M pour Montréal?
Oui, soit ça, soit des artistes bon, qu'on connaît à force d'aller dans des spectacles l'année longue, d'autres événements de vitrine, par exemple le Focoff à Québec, les Franco, tout ça. Et ben aussi qu'on a vu passer via notre appel de candidature. Souvent, c'est des artistes qu'on va, oui, peut-être tester dans le marathon une année, les prendre en vitrine officielle l'année d'après. Comme ça, on les a vus, on les connaît un peu. Puis généralement, ben, c'est des artistes qu'on a vus en live au moins une fois parce que c'est ce qu'on va présenter aux professionnels.
OK. Il y a quand même des grands noms. Je vais en citer quelques-uns qui ont participé comme Grimm, Charlotte Cardin, Marc Desmarco et d'autres. Qui ont profité de ce tremplin pour propulser leur carrière.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des artistes cette année en particulier sur lesquels on doit garder l'œil qui vont être là?
Ouais, ben je pense que Claudia Bouvette, c'est un des beaux noms qu'on a cette année. C'est okay. déjà un bon statut local. On va essayer de la propulser encore plus aux États-Unis puis dans le reste du Canada. Sinon, je pense que c'est la première année en 58 qu'ils le font pas, mais un groupe sur lequel on a beaucoup poussé puis qui commence à se développer pas mal, c'est Chose Sauvage dans les dernières années. La sécurité, on a réussi à faire ça l'an dernier également. Sinon, d'autres artistes à surveiller cette année, il y a Charlie Houston qui va jouer au Club Soda ce jeudi. Qui, elle, s'était déjà fait découvrir avec des singles qu'elle avait fait avec Odessa, la formation EDM américaine, où elle a prêté sa voix donc à deux singles qui ont dépassé les quelques plusieurs millions d'écoutes. Donc, non, à surveiller ça aussi. Je pense que c'est les deux gros coups qu'on a fait cette année.
Ah ben c'est le fun. Moi, je vais aller voir ça, c'est certain.
On a hâte.
Puis, on a vu aussi que vous aviez un partenariat avec Billboard Canada.
Oui.
Ça représente quoi pour vous?
C'est assez majeur. Un beau partenaire d'industrie, comme on dit, qui nous aide donc à promouvoir un peu plus le volet pro, mais qui nous ont aidé un petit peu aussi sur la sélection et la programmation de certains panélistes, qui nous ont aidé avec l'invitation de certains professionnels avec qui on était peut-être moins en contact déjà à la base. Donc, partenaire vraiment important pour nous, qui est là pour quelques années encore et qui nous donne un beau soutien sur la scène canadienne. Ça aide quand même à crédibiliser ton événement quand tu as le logo de Billboard dessus.
Ouais. Est-ce que vous avez des questions, les filles?
Non, ça entourait pas mal tout ce que j'aurais voulu savoir.
Mm-hmm. Parce que là, on a pas mal fait le tour de tout ce qui est la programmation, ce que le grand public a à savoir, mais moi, je serais curieuse de savoir plus niveau programmation, la gestion d'un gros festival comme ça. C'est quoi le processus? Ça prend combien de temps à construire?
T'es encore en vie?
Je suis de peine et de misère, travail, mais c'est le jour 1, puis on verra comment ça va aller rendu jour 5.
Parce que c'est relativement court comme festival, mais il y en a
C'est très chargé. Ouais, comme je disais, le marathon, des fois, un même soir, on va avoir 8 ou 10 salles en même temps à 2 ou 3 groupes chaque. Fait que la programmation, tout ça, c'est un travail qu'on commence, je vous dirais, en février, mars. Tranquillement, pas vite. Généralement, moi, j'ai fini ma programmation en août, puis après ça, c'est de la gestion de qui a besoin de backline, qui a besoin de guest list et tout ça. Fait que...
Mais en cas de désistement,
J'en ai eu pas mal cette semaine.
Comment vous gérez ça, tu sais?
C'est généralement une question de est-ce qu'on veut faire l'effort de trouver un remplacement à dernière minute parce qu'après ça, ben.
Vous en avez tellement.
C'est facile pour moi de remplacer quelqu'un, mais après ça, faut que j'aie mon département de communication qui soit capable de faire l'annonce au bon moment, ma logistique qui puisse changer de ça à dernière minute. Fait que c'est des défis. Souvent, ben, c'est ça. Ça dépend vraiment de l'effort qu'on peut mettre entre est-ce qu'on annule complètement ou est-ce qu'on remplace quelqu'un à la dernière minute. Mais ça, c'est des aléas qui sont là chaque année. Puis on est chanceux parce que les shows sont à l'intérieur. Je travaille aussi pour le festival Santa Teresa. Puis la fois où on avait eu une belle tornade, ça avait été compliqué à gérer. Wow. Ouais.
Puis quoi de prévu pour la fin du festival pour déjà rattraper les heures de sommeil, mais célébrer tout le travail?
Ça va vraiment être rattraper les heures de semaine. Je pense ouais. plus que la célébration, généralement, on l'a fait pendant le festival. Tu sais, on a, comme je disais, les after à chaque soir. Puis on s'est grand même gâté cette année. C'est-à-dire qu'on va avoir une DJ française qui s'appelle Cléa Vincent, que j'aime beaucoup. Une DJ du Royaume-Uni et Virginie B qui va venir closer le dernier after au Quai des Brumes dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, tout ça gratuit encore une fois si vous voulez venir faire un tour.
Gratuit pour tous ou gratuit pour ceux qui ont accès
gratuit
à la...
pour tous les afters. Le reste des shows, bon, c'est plus c'est à regarder sur la billetterie du site web, mais oui, les afters sont totalement gratuits.
Okay. Puis tous ces défis-là auxquels vous avez fait face, j'imagine il y a une équipe derrière ça. Vous êtes beaucoup? Ouais. Vous êtes combien? Ça ressemble à quoi? Là?
On est une équipe... une dizaine, douzaine de personnes, mais qui travaillent des fois sur deux ou trois événements, d'autres qui sont à temps plus partiel, tout ça. Fait que moi, je suis là à l'année longue. Il y a également ma collègue Mikey, ma collègue Marie, mon collègue Mikey, qui sont des pièces très importantes de ce festival-là que je veux saluer aussi, et David, notre nouveau directeur général. Ouais, puis, salutations.
Est-ce qu'il y a des bénévoles, une équipe de bénévoles aussi?
Ouais, on en a cette année qui nous aide surtout avec la billetterie, les entrées en salle et qui ont par la suite accès gratuitement à tout. Fait que si l'année prochaine vous voulez être bénévole, ben c'est une bonne façon d'aller voir
comment
des spectacles.
Comment on devient bénévole?
On remplit un petit formulaire sur le site qui apparaît rendu en septembre d'habitude, donc à surveiller.
Ben allez encourager et profiter de la nouvelle programmation du festival qui va débuter demain le 20 novembre. Pour voir la map et les billets à partir aussi de leur compte Instagram, c'est au M4Montreal, tout en minuscules. Mathieu, merci tellement pour être venu nous en parler aujourd'hui.
Oui, grand plaisir.
Puis on a hâte de voir ça aussi.
Ben, merci à Mathieu d'avoir été avec nous. On va parler justement la semaine prochaine de festival aussi avec Mélissa et Lauriane pour nous parler des RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
Oui, qui commence à partir d'un mercredi d'ailleurs. Il y a l'ouverture, si vous voulez aller
demain,
voir.
Demain.
On est en même temps chacun.
Ouais, on est timé. Fait que si vous voulez comprendre de quoi on parle la semaine prochaine, allez faire un tour.
Est-ce que vous allez y aller?
J'espère aller pouvoir faire un tour.
Moi, je vais aller faire un tour, c'est sûr.
Okay. Bon, on va être là à l'ouverture, ça, c'est sûr. Demain soir.
Bon, écoutez, c'est déjà l'heure de se quitter aujourd'hui. Pour écouter nos émissions ou nous écrire sur des sujets que vous aimeriez que l'on aborde, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram au bulle-du-bas-d'écoute.officiel. Vous pouvez réécouter aussi toutes nos émissions et celles sur Spotify, Apple Podcast et le site du CISM au cism89-3.ca. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Peut-être que vous avez quelque chose encore à dire, Ali.
Hey, la gang, il nous en reste juste trois après.
Déjà, hein?
C'est vrai. Je sais pas si vous êtes rendu compte là, comment ça a passé vite. C'est
vraiment
fou. Là. On dirait que c'est hier qu'on a commencé nos petits briefings de...
Et j'espère que vous avez vu une évolution. Écrivez-nous sur notre Instagram pour nous dire point fort, point faible, quoi améliorer.
Ben oui, pourquoi pas. Puis
Il reste plein encore de sujets intéressants, divers et variés jusqu'à la fin. Notre dernière émission, c'est le 10 décembre. Du coup, si vous voulez écouter et être là au rendez-vous, ce sera une émission spéciale pour la fin, avant de remettre la main à nos futurs stagiaires.
Stagiaires, ouais, exact.
Oh my God.
Oui, puisque vous allez accueillir les prochains, la prochaine cohorte après. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Est-ce qu'on va les coacher? Ah, ça serait drôle, hein? Ouais. Mais ils vont être quatre l'année prochaine, j'ai vu. Pas cinq.
C'est ça, bon, on se retrouve du coup mardi prochain pour une nouvelle émission. Merci d'être entré dans notre bulle sur les ondes de CISM La Marge. Bonne semaine tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne soirée.
Bonne journée.
Au revoir.
tempête juste pour me voir un tout petit peu. Je te parlais pendant des heures pour te regarder un peu mieux. La route vers toi était une chance, celle de revenir à la maison. Rien ne pouvait empêcher que j'avance, j'étais plus forte que les camions. Quand je repense à tes yeux sincères, à la peur qui les remplissait, je t'aurais jamais laissé seule si j'avais su que tu partirais. Moi, je n'aime pas ce qui s'achève, ça tue l'espoir et les possibles. J'aime les oiseaux, j'aime la sève qui remonte toujours vers la cime. Je suis comme l'eau et cette manique est l'heure de toujours avancer. J'aimerais couler dans les deux sens, n'avoir jamais. Dans la nuit, que tu me protèges dans mon sommeil. T'es comme la lumière et le vent, tu fais fondre tous mes malheurs. Le calme revient doucement, tu fais remonter la chaleur. Et j'ai grimpé jusqu'au sommet, j'ai viré le décor à l'envers. Je voulais savoir où tu te cachais, te voir apparaître dans les. Je resterai là, fixer le noir pour voir le ciel ressusciter, allumer nos étoiles une à une en espérant t'y retrouver. Je suis comme le train, cette manie qui est l'heure de toujours avancer, mais je t'attendrai où les chemins se croisent devant la simple traversée.
Oh oh, petit Béliveau alert. Moi, je suis petit Béliveau. Le 22 novembre 2024, Earth Who au MTELUS. Première fois de ma vie. C'est que tu vas point à l'MTELUS 22 novembre. C'est que tu vas point à l'MTELUS 22 novembre.
I'm gonna poop my pants.
Du 20 au 23 novembre, préparez-vous à vivre le marathon, une présentation de M pour Montréal et SiriusXM. 4 jours de spectacle avec nul autre que Claudia Bouvette, Peter Peter, Charlie Houston, Sheilia, les Breastfeeders, Lou Baline, Croy, BB Club, Mist Milano et plusieurs autres. Avide de musique et d'adrénaline, lacez vos souliers car la ligne de départ approche. Détails et billets au mpourmontréal.com.
Le 22 novembre prochain, au Jeunesse Musicale, le producteur de concerts en musique contemporaine et expérimentale Code d'accès présente Virtuosité plurielle, un programme d'œuvres exprimant différentes visions de la virtuosité tout en soulignant les talents de la relève montréalaise. Découvrez comment les instruments comme le cor, la guitare classique, la clarinette et les quatuors de flûte ou de saxophone s'agencent avec les sons électroniques pour une soirée éclatée. Visitez codedaccès.org pour plus d'informations.
Hello, ici c'est petit Béliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
écoutez CISM 89.3 FM.
Cette émission est une rediffusion.